De retour. Alors, excusez-nous pour tout à l'heure, on a été coupé en pleine pub, mais on était tellement pris dans l'histoire. Donc, du coup, je vais reprendre l'histoire. Je suis obligée. Normalement, c'est Coco qui doit reprendre sa. Hein? Ouais, mais bon, tu feras après. C'est pas grave. Donc, alors, on était en train de parler, pour ceux qui n'étaient pas là la première heure, des légendes. Donc, je fais un petit récapitulatif. Donc, une légende est à l'origine un récit mis par écrit ou pour être lu publiquement. En général, il s'agit d'une hagiographie lue dans les monastères, pendant les repas, dans les églises, pour l'édification des fidèles lors de la fête d'un saint. Au XVIe siècle s'opère un glissement de sens, la légende devenant un récit à caractère merveilleux ou fait historique, sans transformer par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Cette évolution résulte de la nécessité devant laquelle se sont trouvés les hagiographes de fournir la matière destinée à alimenter le culte de saints personnages dont ils ignoraient à peu près tout. Dans ce genre littérature, la précision historique passe ainsi au second plan par rapport à l'intention spirituelle. Et donc le mythe diffère de la légende en ce qui est une légende tient au fait réel, une histoire est racontée puis transmise par l'oral, d'où les modifications. On peut la définir comme un récit mélangeant le vrai ou le faux. Et donc en fait les mythes c'est plutôt des histoires orales.
Oui.
Du coup, puisqu'on était tellement pris, tu veux savoir la fin de l'histoire,
oui,
Coco?
Oui, je veux savoir.
Ah, mais tu m'étonnes. Alors donc, on parlait de la légende de la poire. Donc du coup, je vais peut-être pas tout reprendre non plus. Bah du coup, j'ai tout inversé. Du coup, je sais plus où j'en suis. Alors bah ouais. Alors du coup, c'est la légende. Donc c'est la légende. C'est
arrivé,
de la vieille mère misère.
Ouais. La mort était prisonnière de là. Tu es arrivée.
Oh, ouais, voilà. Bah dis donc, Coco, tu suis, c'est
oui,
bien.
Oui, j'ai bien suivi.
Donc alors l'origine de cette légende est difficile donc à trouver, mais une version ancienne datant de 1800, donc elle date depuis déjà très longtemps, situe donc l'histoire dans le nord de la France, donc par chez nous, dans la commune de Vic, au bord de l'Escaut. Donc c'est la vieille mère misère qui vit en fait dans un taudis, on va dire entre guillemets, qui a à côté d'elle un arbre, un poirier. Donc elle a des poires juteuses et donc il y a des garnements qui viennent régulièrement lui chapardait
ses
poires. Et donc, du coup, dans une nuit d'orage, alors que les éclairs n'avaient de cesse d'illuminer le ciel, quelques coups foudornaient à la porte de la massue de la vieille mère Misère. « Entrez, entrez donc !» cria-t-elle pour couvrir le bruit du tonnerre. Un homme usé par le temps passe alors dans l'embrasure. Il est voûté, le visage tourné vers le sol, avec une grande barbe grise et marron dépassant de sa capuche. « Ma bonne mère, » dit l'inconnu en saluant la vieille mère Misère d'un geste faible de la main, « le voyageur, je n'ai ni abri ni nourriture. » Donc la mère Misère lui dit « N'en dites pas plus, je vous accueille chez moi et je vous offre le peu que j'ai. » Le lendemain matin, du coup, elle se réveille et réalise qu'elle a sur sa table, d'ordinaire vide, regorgée de pain frais, de confitures en tout genre et de paniers garnis de fruits colorés. Le mystérieux visiteur semblait quant à lui s'être redressé et avoir retrouvé sa jeunesse d'autrefois. En réalité, il n'était autre que le seigneur des bois qui traversait la contrée et s'était fait surprendre par la colère du ciel. « Tu m'as offert le peu que tu possédais, là où bien plus riches que toi m'ont fermé la porte, » dit-il. « Je ne peux que te remercier en t'offrant à mon tour ce que je possède. » « Ma gratitude est infinie, » répondit la vieille mère Misère, « mais tout cela ne me permettra pas de me nourrir que les quelques jours à venir. Que puis-je donc faire pour toi ?»« Il y a en mon jardin un poirier qui donne chaque jour des fruits juteux à souhait. Toutefois, je n'ai jamais loisir de les savourer, et les enfants du village n'ayant de cesse de venir les chaparder. » Pour leur donner une leçon, je souhaite que quiconque monte dans mon arbre y reste coincé jusqu'à ce que je donne l'ordre pour mettre pied à terre. Cela peut te consoler, ce sera désormais ainsi. Après ses vœux, le seigneur des bois repartit à sa verte forêt. L'après-midi même, les garnements du village vinrent se servir de poires dans le jardin de la vieille mère Misère. Au moment d'en redescendre, voyant la bonne femme arriver tranquillement jusqu'à eux, les enfants ne purent décoller ni fesses ni cuisses des branches nouées. Les larmes, les cris remplacèrent les rires et ce fut la mère Misère qui s'esclaffa à son tour. Une fois qu'elle jugea la punition assez sévère, elle libéra les petits qui s'enfuirent pour ne jamais revenir. Les saisons s'écoulèrent jusqu'à ce que la mort respecta son calendrier. Vint frapper à la mère de la vieille mère Misère. Celle-ci ne fut pas surprise de sa venue. Elle avait parfaitement conscience que son dernier voyage arriverait tantôt. Alors la mère Misère posa son ouvrage, prit sa canne et se leva pour suivre la mort hors de sa maisonnette. Une fois au bout de son jardin, elle vit son arbre regorgeant de fruits et trouva bien dommage de les laisser ainsi. Elle demanda donc à la mort, « Ami, vieil ami, veux-tu ces fruits si beaux ? Il serait dommage de les laisser ainsi après mon départ. Veux-tu m'accorder le temps pour régler cette affaire ? Je vais chercher un panier et toi, si grande et rapide que tu es, montre donc chercher les poires. » Désireuse de satisfaire une ultime fois cette vieille d'ici-bas, la mort ne discuta pas et escalada l'arbre avec aisance. Mais une fois assise sur une branche, elle ne put revenir à terre. « Bien, dit la vieille mère Misère, te voici ennuyée par la situation, tout comme moi. J'ai connaissance que mon heure doit venir, mais partir maintenant serait point inutile. J'ai encore des choses à régler. Alors je te propose ceci. » Si je te laisse redescendre, tu m'accordes la faveur de venir me chercher que lorsque je te rappellerai. Fâchée, la mort refusa d'abord. Mais lorsqu'elle vit la nuit pointée à l'horizon, la vieille bonne femme retournée à sa maison, elle accepta afin de continuer sa funeste tournée. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de ramasser les poires tombées au pied des arbres. Si vous ne le faites pas, une bonne femme usée s'en chargera. D'ailleurs, la mort attend toujours d'être rappelée, car la mère Misère est toujours de ce monde.
Ouh là là.
Voilà, une histoire de fantôme. Mmh. Ça peut être bien ?
Oui.
Hein ? Donc du coup, bah, Coco, on va passer à ta rubrique, la rubrique beauté. Allez. Angèle, petit...
Moi, je vais vous parler tendance beauté automne-hiver 2020-2021. Et ce n'est pas une légende. Attention. Crise sanitaire oblige, le port du masque s'impose sur tous les visages et bouscule nos habitudes beauté. Cet automne-hiver 2020-2021 sera marqué par l'avènement du maquillage des yeux et le boom des produits de beauté éco-responsables. On se fait donc une coiffure rétro. Cette nouvelle saison salue le retour en grâce des cheveux longs. Pour une allure ultra chic, on les porte légèrement wavy ou avec un brushing façon 70s. Côté détail, on reste dans l'élégance avec des barrettes en perles ou fleuries. Pour les inconditionnels des cheveux courts ou mi-longs, aucun risque de beauty faux pas, du moment que la coupe reste bien structurée. De ce fait, la coupe à la garçonne et le carré droit seront des choix judicieux pour rester stylé. On séduit avec un regard flashy. Avec les masques, on met l'accent sur le regard. D'abord avec des sourcils bien dessinés et lustrés, puis avec du mascara, des fards à paupières flamboyants, bleu turquoise, orange flash, jaune pop, et un trait d'eyeliner graphique.
Alzheimer,
c'est moi qui commence à avoir Alzheimer alors. Plus que jamais, le maquillage des yeux doit être créatif pour capter l'attention. Côté teint, on mise sur un fluide de teint léger pour unifier la peau sans l'étouffer. On allège sa salle de bain en devenant plus éco-responsable. Prise de conscience écologique ou hygiéniste, la situation sanitaire a accéléré la révolution verte du secteur de la beauté. Fini le plastique et les ingrédients controversés dans la salle de bain. Les soins naturels sont devenus les vedettes. Voici donc 5 gestes à adopter pour aider à préserver l'environnement. Réduire sa consommation d'eau. L'eau est une ressource naturelle précieuse qui se raréfie. Il est donc important de l'utiliser de façon responsable et de lutter contre le gaspillage. Privilégier la douche au bain. Ce dernier consomme en moyenne 200 litres d'eau, tandis qu'une douche de 5 minutes n'en consomme que le tiers. Fermer le robinet pendant qu'on se nettoie le visage et couper la douche lors du savonnage contribue à économiser l'eau. Avec ces nouvelles habitudes peu contraignantes à mettre en place, elles permettent d'économiser entre 30 et 60% de sa consommation d'eau habituelle.
Oui, puis de toute façon, si t'as froid, c'est bien pour la peau.
Ça fait du bien, oui. Adopter la cosmétique solide. On le sait, le plastique est un fléau qui étouffe notre belle planète. Chaque année, rien qu'en France, on jette 360 bouteilles de gel douche et de shampoing et seul un infime pourcentage de ces contenants est recyclé. Pour lutter contre la marée de plastique qui asphyxie nos océans, on peut opter pour des cosmétiques solides et dénués d'emballage superflu. Nettoyons visage, shampoing. Après shampoing, déodorant et même dentifrice existent en version solide.
C'est vrai.
Et ils ont d'autres avantages, leurs formules sont plus simples, riches en ingrédients naturels et dénuées de conservateurs potentiellement irritants. Et s'ils sont séchés avec soin, leur durée de vie peut être de plusieurs mois.
Ouais, moi j'ai acheté du savon de Marseille.
C'est parfait.
Et on m'a dit qu'on pouvait se laver les dents avec.
Il est pareil, oui.
Oui, j'ai essayé. C'est dégueulasse. Mais
bon, c'est vrai que ce goût doit pas être
non,
terrible.
Non, c'est pas terrible. Mais ça marche super bien. On a les dents vraiment bien. Je confirme.
Voilà.
Mais c'est vraiment pas bon.
On sape le goût. Et puis,
bah, on faut s'habituer.
Voilà. Troisièmement, utiliser des caries démaquillants lavables. Troquer ces disques de coton jetable contre des lingettes démaquillantes lavables est une solution à ne pas négliger. En effet, pour rappel, la culture du coton est l'une des plus polluantes au monde, en plus d'être très gourmande en eau. Les lingettes ou carrés lavables sont économiques et respectueux de l'environnement. Elles démaquillent et prennent soin de la peau tout aussi bien. La durabilité en plus, car un carré remplace environ 300 cotons jetables. Trier les emballages et de ces produits de beauté, en plus d'opter pour des cosmétiques zéro déchet et non sur-emballés, apprendre à bien trier les flacons, les tubes, est un autre moyen qui permet de recycler différents matériaux, comme le carton, le verre et certains plastiques. Choisissez les bonnes formules. En effet, certains ingrédients sont nocifs à cause de la façon dont ils sont fabriqués, pour l'impact qu'ils ont sur la nature après utilisation, notamment pour les produits rinçables dont les nombreuses particules polluantes et non biodégradables finissent dans les océans. Et si on aime mettre la main à la pâte, fabriquer ses propres cosmétiques est une solution pour faire attention à l'impact écologique de ces baumes et élixirs de beauté. La bouche se fait rouge Bordeaux.
Mais ah, c'est
si
rouge
le
Bordeaux,
rouge à lèvres, oui, n'est pas le premier réflexe du moment, il n'en reste pas moins un geste de make-up irrésistible. Enfin,
après, tu peux mettre le rouge à lèvres sur ton masque.
Voilà aussi, ça le... Oh.
Ça fait genre.
Décor de l'intérieur.
Ouais, voilà.
Sous le masque, on ose le rouge bordeaux mat, de préférence pour plus de tenue. Et pour les mains, on les oublie pas, bien sûr. Fragilisées par les lavages des mains fréquents, on les chouchoute avec des crèmes nourrissantes. Puis on les sublime avec des vernis laqués dans les tons bleu foncé ou prune. D'accord. La touche ultime tendance de la saison.
C'est bleu foncé.
Bleu foncé, oui.
Ou prune. Prune.
Avec des couleurs bien flashies sur les yeux.
Et des paillettes partout. Et, voilà. Et là, on fait flashy.
Et ça fait très, très automne.
Ça fait très, très automne.
Il paraît.
Sans les paillettes, alors. On peut mettre des paillettes quand même, non ?
Il faut attendre décembre pour les
paillettes. Remarque, un masque avec des paillettes et une bouche rouge, ça peut être pas mal.
Oui, ça doit être pas mal. Bon, là, voilà.
Ouais. Donc, on rigole toute seule. Oui. Donc, Angel, tu nous passes une petite musique ?
Oui. Donc alors cette fois, je vais vous passer Dragon Ball Durag de Thundercat, sorti en 2001.
Il nous passe Dragon Ball.
Dragon Ball ?
Ça ne rajeunit pas. Aussi avec des légendes, mythes, contes, fables, enfin tout ce qu'on veut. Donc on va parler du folklore du Pas-de-Calais.
Ah, un
parce qu'en fait, en faisant des recherches, on n'a pas trouvé du Nord, mais on a plus trouvé du Pas-de-Calais. Donc, on parle de créatures imaginaires. Ouais. Donc, le bestiaire imaginaire propre au Pas-de-Calais est abondant. Et reprend beaucoup de créatures répandues sous des noms particuliers, comme les loups-garous, qui portent ici le nom de Lieu-Wa-Rou, si je prononce bien, ou comme le diable nommé Eshmaeu.
Eshmaeu.
Eshmaeu. Eshmaeu. Eshmaeu. Attends, Eshmo, pardon. M-A-U, c'est Mo.
Eshmo.
Eshmo. Je ne connaissais pas. Eshmo. Mais je ne suis pas du Pas-de-Calais, donc c'est peut-être logique.
Oui.
Peut-être, hein. Oui. La chèle ferolle. Il s'agit du nom ch'ti pour feu follé. Bah si, bah j'ai bien dit. Non, j'ai pas bien dit.
Chelferol.
Chelferol. Chelferol. Ouais, faut faire que je reprenne mon français. Donc, il s'agit du nom pour feu follé. Des êtres en forme de petites flammes, réputés égarés, les voyageurs, qui les rencontraient. Une histoire mentionne qu'un feu follé dans la ville de Saint-Paul, en octobre 1902, provoqua une petite explosion au contact de la flamme de la lanterne d'un ouvrier. Ils sont pas gentils, ces feux follets. Les chevaux blêmes. Je sais pas ce que c'est.
Qu'est-ce donc ça?
C'est du Pas-de-Calais. Hein. Donc, les chevaux légendaires sont mentionnés dans le folklore de l'Artois, du Ternois et dans le Boulonnais, comme des animaux fabuleux et diaboliques. Mmh. La blanque jument est une jument blanche qui est généralement maléfique, qui apparaissait à la tombée du jour ou au milieu de la nuit pour tromper les enfants et les hommes. Elle tendait ces derniers de la monter et son dos pouvait s'allonger pour les accueillir en général jusqu'à 7 cavaliers.
Eh ben.
Dès qu'ils étaient bien installés sur son dos, la jument les traînait dans des pièges ou les jetait à l'eau. Et ben voilà.
Bravo.
Elle est mentionnée à sa mère. Des créatures très similaires sont également présentes, entre autres le galvaud blanc, Ah non, mais alors si vous me mettez des trucs en patois, je vais pas m'en sortir. Hein. Vas-y, Coco.
C'est quoi?
Le
galvaud blanc.
Le galvaud blanc.
Le blanc galvaud.
Ouais, voilà.
Celui de Vaudricourt. Euchglobin.
Voilà. Non, j'ai bien dit alors.
Ouais.
Bah oui,
ouais,
j'ai bien dit quand même.
Ouais, ouais. Tu prends un petit peu des cours quand même.
Ouais, ouais, bah excuse-moi, je suis pas du Pas-de-Calais, je suis du Nord. Qui portait 20 enfants et finissait par les noyer. Encore, bah dites donc. Donc, et qui portait un collier de clochettes pour attirer ses victimes. Eh ben la vache.
C'est qu'à le dire. La vache.
Ils sont pas gentils, ces chevaux. Hein. Oh non, ils sont gentils. Grammaire à chiende.
Non, grammaire à chinde.
Ouais, grammaire à chinde.
À chinde.
Et l'équivalent de marchand de sable. Voilà.
Voilà, mais c'est des chindes.
Ah, voilà. Dans le Pas-de-Calais, elle jetait des cendres ou de la poussière dans les yeux d'enfants pour les endormir. Elle n'est pas gentille. Le gokmal est un être fantastique qui s'asseyait sur la poitrine des dormeurs pour les étouffer et leur provoquer d'horribles cauchemars. Ah, m'a dit dedans. Eh ben, c'est pas. Ah ben, moi, je vais vous dire, on vient pas vivre dans le Pas-de-Calais, moi, je vous le dis. Hein. Croque-mitaine. Bon, ça, je le connais.
Ouais.
Donc, les latusées sont des créatures monstrueuses vivant dans les greniers, dont on effrayait les enfants. Le grand-père, l'oripette, utilisait sa hotte pour emporter les enfants qui n'étaient pas assez sages. Des bricassis avaient aussi pour fonction de faire peur aux enfants qui voulaient sortir le soir.
Voilà, voilà.
Bah maintenant, ça marche plus. Hein.
Non. Peut-être ressortir...
Peut-être ressortir les histoires. Les parents, racontez des histoires comme ça. Les enfants sortiront plus. Donc, les cheux batteux.
Cheux batteux. Cheux batteux.
Cheux batteux. Cheux batteux. Bah, cheux batteux. Non, cheux batteux. Sorte de fantôme. Il se présentait entre deux batteurs armés d'un fléau et empêchait les voyageurs de passer près de Saint-Paul-sur-Ternoise. En fait, c'est tous des trucs qu'ils ont pour faire peur, le folklore du Pas-de-Calais. Hein? Et du coup, j'ai des petites histoires. Alors, en espérant, en croisant les doigts, que rien n'est marqué en patois, parce que sinon, je suis mal barrée. Alors, je vais vous lire la légende de l'abbaye d'Anchin.
Soyer, le sire de Los et de Courcelles, et Gautier, le seigneur de Montigny en Ostrevent, étaient des ennemis. Leur père se battait déjà. Un jour, Soyer se perd et arrive la nuit devant un château. Il ne sait pas que c'est le château de Gautier. Gautier le reçoit bien, lui donne à manger et une chambre. Le lendemain, tous deux se réveillent et se racontent ce qu'ils ont fait le même rêve. Ils ont rêvé d'une île proche. Au centre se trouve l'oratoire de leur patron, Saint Gordin. Un cerf blanc les tire pour les traîner tous autour de l'île. Étonnés, ils vont tous les deux sur l'île et y voient le cerf blanc vu dans leur rêve. Ils décident alors d'arrêter de se battre et de construire à cet endroit une abbaye, l'abbaye d'Anchin, qui prend pour armoirie un cerf constellé d'étoiles et qui existe encore aujourd'hui.
Ah oui.
C'est une belle histoire quand même. Hein. Alors là, peut-être une histoire qui fera peur, c'est le trou des enfants.
Oui.
Trois filles s'en vont à la ville, près du mont Kemmel, pour faire leurs emplettes. En route, elles rencontrent leur voisin Pierre. Il dit « Où allez-vous ? Nous allons en ville pour y faire des emplettes. » Elles marchaient tranquillement et un cavalier les croise. Il les emmène dans le château de sa mère et de son père. Tous les invités dansent puis jouent avec les filles à questions et réponses. À chaque mauvaise réponse, elles doivent enlever un vêtement. Quand le jour arrive, le château disparaît. Elles se retrouvent nues au sommet d'une montagne, réfugiées au fond d'un trou au mont Kemmel. C'est là que Pierre les retrouve et le lendemain, alors qu'il ramassait du bois. Le trou des enfants existe toujours. C'est là que les mamans, disons, vont chercher les petits frères et les petites sœurs.
Ah, d'accord.
Pourquoi ? Ah, d'accord.
C'est la légende des enfants.
Voilà.
Ah.
Bon, moi, je vous dis d'être
là,
dans...
Là, c'est pas dans les choux et les roses.
En fait. Non, c'est pas dans les choux. C'est dans le trou des enfants.
D'accord. Oui.
Et donc, du coup, je vais finir par le fantôme de Saint-Omer. Moi, je vous dis, vivre dans le Pas-de-Calais, c'est pas génial. Hein. Donc, nous sommes en 1601, au domicile de Ricard, situé au numéro 11, dans la rue des Cuisiniers. On dit que la maison est hantée. Alors, Ricard décide de mettre la maison en location. Martin Fontaine, qui loue la maison, ne croit pas ce qu'on raconte. Personne ne vient déranger Martin et Jeannette, mais cela ne dure pas. Jeannette, une nuit, est brusquement réveillée par les bruits étranges. Immédiatement, elle se cache sous son oreiller, tandis qu'une force surnaturelle se met à lui tourner la tête de droite à gauche et de haut en bas, sans jamais l'enlever de son lit. Le lendemain, elle va voir son patron, qui se met à rire. Mais les trois jours suivants, cela se reproduit. La nuit suivante, Jeannette sent une main inconnue et froide qui la tire fermement de son lit pour lui faire trois tours de sa chambre. Cette fois, ça suffit. Martin décide d'agir. Il va se plaindre à son patron. Quand son patron entend qu'il y a un fantôme et se met à rire, Martin est exigeant. Ou il se débarrasse d'un fantôme, ou ils s'en vont. Alors il décide d'appeler le curé de Saint-Aide-de-Gonde. Le curé de Saint-Aide-de-Gonde reste avec Jeannette dans sa chambre et pose des questions au fantôme. Il apprend que le fantôme est un vieux villageois mort sans avoir été pardonné de ses péchés. Jeannette doit faire un pèlerinage. Elle sent un poids lourd sur son dos. En entrant dans l'église, le poids disparaît. Elle a libéré le fantôme. Il y a des drôles d'histoires, moi, je te dis, dans le nom Pas-de-Calais. Bon, on passe une petite musique, Angèle, et puis après, on fait la rubrique cuisine. On va passer à des choses plus concrètes.
Oui.
Oui, on passe à des choses plus concrètes. Oui. Je vais vous parler des fruits de saison.
Quoi donc ?
Et puis après, d'une petite recette.
D'accord.
Une grosse recette. Non, une petite.
Bien
de chez nous.
Ouais.
Bah, bien de chez nous.
Ok.
On parlera plus des histoires de Pas-de-Calais.
Ah, c'est fini. Oh.
Non, c'est terminé.
Merci. J'aimais bien, moi.
Bah oui, mais c'est terminé.
Bon.
Donc, alors cette fois, je vous passais Falling in Love de Earth, Wind and Fire, sorti en 1982.
Et ben, on écoute ça.
Allez.
Down the line.
Voici la rubrique cuisine. Je vais vous parler du calendrier des fruits et légumes par saison. Et je vais faire encore mieux, je vais faire par mois.
D'accord.
Donc là, c'est le mois de septembre. Mm-hmm. Donc du coup, pour faire votre petite cuisine, et donc du coup, vous achetez rien d'autre de ce que je vais citer, parce que sinon, ça veut dire que ça c'est venu d'autres pays, c'est pas bien. Donc, l'ail.
Oui.
L'amande. L'artichaut. L'aubergine. La banane, la betterave, la blette, le bolet, le brocoli, le crêpe, cèpe, champignon de Paris. Et ensuite, il y a l'orange, la pêche, le persil, pied de mouton.
Pied de mouton, c'est quoi?
Bon, je ne sais pas. Il faudra rechercher ce que c'est. Piment, poire, poireau, pomme, pomme de terre, potimarron, potiron, prune, radis noir, raisin et tomate.
D'accord.
Non, je ne l'ai pas dit parce que je n'allais pas le dire bien.
Hein, la quetch.
La quetch.
La quetch.
Donc, du coup, je vais donner une... Il y a l'endive aussi qu'ils ont oublié de stipuler dans le nord de la France. Alors, du coup, je vais...
Bien.
Bah ouais, tu vois, ils ne disent pas tout. Et donc, alors, barquette de feuilles d'endive à la crème d'avocat. Mais bon. Du coup, il vous faut 200 grammes de chair d'avocat, un demi-citron vert... 100 g de châtaigne cuite, bah tu vois, on pourrait même dire les châtaignes. 15 g de beurre doux, 2 cuillères de vin de Porto, 2 endives rouges ou blanches, 2 cuillères à soupe de fromage frais à tartiner, poivre d'Espelette ou rose en grains et fleurs de sel. Du coup,
oui, alors,
ils font concasser les châtaignes cuites, placez-les dans une petite poêle avec le bord fondu, chauffez sur un moyen jusqu'à ce que le beurre mousse et enrobe les châtaignes. Versez le porto pour déglacer, poursuivez sur feu vif jusqu'à ce que la sauce ait disparu, réservée dans un bol. Jusque-là, c'est pas compliqué, hein. Lavez et épluchez les avocats et recueillir la chair. Dans un saladier, écrasez la chair à la fourchette en y ajoutant un demi-citron vert. Ce dernier au goût acidulé convient beaucoup mieux que le citron jaune. Incorporez 2 cuillères à fromage à tartiner, genre Philadelphia, salez légèrement. Ajoutez les éclats de châtaigne cuisinée, réservés au frais dans un récipient fermé. Lavez et essuyez les endives, éliminez les feuilles extérieures, puis détachez les feuilles une à une en pratiquant une incision juste au-dessous du trognon. Prévoir 18 à 20 feuilles. Pour le dressage, placez les feuilles d'endives sur un lit de salade verte ou des cuillères en présentation. Déposez une boule de crème de la grosseur d'une noix sur la pointe parsemée de poivre rouge ou rose au moulin. La mise en bouche pourra être saisie par la base de la feuille.
Ça m'a l'air bien fruit tout ça.
Bah, ça fait une petite apéro quoi. Ouais. C'est sympatoche. Hein? Mm-hmm. Bah, du coup, Angèle, on va réécouter une petite musique. Là, il n'y a pas envie.
Allons.
Ah bon. Bah oui, bah attends, écoute.
Fais son rebelle, ça y est.
Ouais, fais son rebelle. Ah, encore, ben bah, voilà. Mais... il veut pas. Hein.
Qu'est-ce que ça signifie?
C'est assez jeune, on peut c'est plus rien faire possible. Avec ces jeunes. Ouais, non, on peut plus rien faire.
On peut même plus compter sur eux.
Non, même plus. Même plus. Bon, alors on va écouter quoi?
Alors, donc je vais vous passer Lucky Star de Madonna, sorti en 1985.
Eh bah, ben écoutons Madonna.
Allez.
Faisons notre rebelle.
Oui.
Alors, nous revoilà avec deux petites histoires du Pas-de-Calais, je précise, le Pas-de-Calais, pas le Nord. Parce que du coup, là, l'histoire qui se situe à Isberg, c'est pas très glorifiant. Donc, c'est Isberg la lépreuse. Donc, une princesse royale qui s'appelait Isberg, son sœur de Charlemagne, était si pieuse qu'elle devint la spirituelle du pape. Recherchant le calme et la solitude, elle ne quittait jamais son palais d'air sur la Lys, sauf pour rendre visite à un ermite. Cet ermite avait choisi la forêt de Wostelo pour retraite et il portait le nom de Venant. L'homme des bois devint le confesseur d'Isberg. Un jour, un chevalier, fils du roi d'Angleterre, arriva au palais et demanda au roi, le père d'Isberg, d'épouser sa fille. Isberg refusa sa proposition, mais elle demanda l'aide du confesseur qui lui dit d'obéir à son père et de se marier. Elle pria le ciel et lui demanda d'intervenir pour que ce mariage n'ait pas lieu. C'est alors que sa peau se couvrit de lèpre. Elle ne put donc épouser un prince anglais. Très en colère, le prince retrouva Venant, lui coupa la tête et le jeta dans la Lys. Mais la princesse ne guérit pas. Un ange apparut et dit que pour qu'Isberg guérisse, il fallait qu'elle mange le premier poisson pêché sur le cadavre dans la Lys. Les pêcheurs trouvèrent le poisson sur le cadavre sans tête de Venant. Et la princesse retrouva la santé. Bah, c'est gai, hein? C'est très gai de vivre là-bas. Moi, je te le dis, hein. Ouais. Ursus et Ursa. Depuis plusieurs années, Ursus, le roi des Trévirois, se bat avec Ursa, la reine des Belges. Un soir, Ursus défie Ursa et décida de regrouper son armée. Ses soldats sont fatigués, dont ils campent. La reine Ursa a demandé l'aide du roi de Bretagne, Ravaillon Gurguintus. On lui annonce une bonne nouvelle, le roi Ursus est malade. La reine décide donc d'attaquer le roi Ursus. À la fin de la bataille, elle fait chercher Ursus, cherchez-le, et dès que vous le trouvez, appelez-moi. Ah, et dit un guerrier, il est caché dans des peaux de bêtes. La reine saisit un glaive et lui trancha la tête. Le lendemain, la reine décide d'enterrer le prince Gurguintus. Puis, devant un tel carnage, elle envisagea de perpétuer le souvenir de cette sanglante journée par la plantation d'autant de chênes qu'il y a de morts. Cela donne l'actuelle forêt de Mormal, qui signifie « mort des méchants ». Voilà. Bah, je vous dis, moi, c'est gai. Hein, c'est...
La forêt de Mormal.
Voilà. Alors, la forêt de Mormal, en fait, c'est beaucoup de morts.
Il faut faire attention.
Ouais, il faut faire attention. Du coup, Angel, on passe du coup à la rubrique « confiance en soi ».
Ah,
c'est un sacré...
Ouais, mais ça peut aider. Hein,
ça peut aider.
Prendre dans la forêt de Mormal.
Exactement.
Confiance en soi.
Il doit y avoir plein de fantômes, en fait.
Voilà.
Éviter. Love. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Du coup, nous voici avec notre petite rubrique confiance en soi. Du coup, les vacances ne vont plus tarder.
Les vacances déjà ?
Bah oui, au mois d'octobre, il y a les vacances. Hein.
Déjà ?
Eh ben, ouais, déjà.
Tac.
Ouais. L'année est passée comme. Comment. Alors, je vous donne ça pour travailler durant les vacances. Ou du moins, quand vous avez des congés. Parce qu'il ne faut pas faire ça pendant que vous travaillez.
Ah bon ?
Okay. Ben oui. Pourquoi ne pas profiter des vacances ou des jours non travaillés pour travailler justement un peu vos faiblesses ? Ah oui, il ne faut pas le faire dans les autres, sinon c'est pas grave. Alors, si vous avez souvent des doutes ou vous avez des difficultés à prendre des décisions ou vous souhaitez mieux vous positionner face à vos collègues ou un supérieur, c'est votre confiance en vous qu'il faut travailler. Rien de mieux que les vacances, la fainéante pour la booster en douceur. Donc, suivez ces conseils.
Okay.
Je vais vous raconter l'histoire de Myriam, membre d'un programme Spark. Donc, je ne vais pas chercher ce que c'était, mais bon. Après un burn-out suite à son premier contrat dans le milieu professionnel, elle a eu besoin de reconstruire sa confiance en soi. Malheureusement, ce n'était pas l'été mais l'hiver. Une période beaucoup moins sympa pour faire ce travail. Sans en arriver là, à un cas aussi extrême, pourquoi augmenter votre confiance en vous ? C'est vrai que pendant la période de l'hiver, on a plutôt tendance à déprimer.
C'est pas fou.
C'est, voilà. Cela vous permet de mieux vous positionner dans vos environnements. Vous limitez l'influence des autres sur vous et vos décisions. Vous vous sentez plus en accord avec vous-même. Votre relationnel s'améliore. Comment et où par où commencer ? Vous me direz, d'accord ? Une première étape, tout simplement, mais nécessaire, est celle de prendre conscience que l'on a besoin, justement, de plus de confiance en soi. Et vous l'avez déjà atteint si vous êtes en train de nous écouter. Donc, on peut vous dire bravo. La confiance en toi, en soi est liée à notre amour propre. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous vous proposons donc de débuter par un petit exercice, déjà, se regarder dans un miroir et se dire qu'on s'aime. Pas évident.
Non.
Ça peut paraître tout bête, mais c'est déjà un grand pas. Faites-le et rejouez la scène. Alors du coup, je pense que beaucoup vont dire « Mais non, j'ai pas la peine, j'ai pas besoin. » Si. Si cet exercice vous a coûté, répétez-le plusieurs jours de suite jusqu'à ressentir ce que vous dites. Et ensuite, le travail sera du plus long terme commence.
Oui.
Il faut déjà accepter de se dire que vous aimez dans la glace. Ça sera déjà la première étape.
Je m'aime.
Voilà.
Je m'aime.
Bon, n'en faites pas trop quand même. Mais alors, menez une introspection par l'écriture quotidienne, comme son petit journal intime.
Oui.
Alors, je reprends le cas de Marianne. Marianne adorait écrire et cette étape lui semblait agréable et facile. Il résulte que cela n'est pas aussi facile qu'on peut se l'imaginer. Tous les jours, prenez le temps d'écrire 3 pages de cahier au réveil.
3 pages.
Bah alors, faut prendre un petit cahier, pas un grand, parce que sinon
on est. Carnet,
un petit carnet. Oui, aussi un petit carnet, c'est pas mal. D'abord, il faut se lever un peu plus tôt que prévu, évidemment.
Ah bah, en plus.
Ouais, en plus. Donc, si on est, du coup, voilà, si on est en vacances, c'est parfait.
Oui.
On a le temps. Qu'est-ce qui va se passer avec ces pages ? L'idéal est de les faire pendant 3 mois. Mais vos 15 jours ou 3 semaines de vacances, ça dépend de ce que vous avez pris, feront déjà un bon travail. Sur ces pages, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Aussi simple que ça. Et pourtant, vous verrez que vous aurez souvent la flemme ou bien cela résultera plutôt difficile que prévu. Au bout de quelques jours, réaliser quelques exercices est une bonne manière de travailler en s'amusant un peu. Non seulement ça libère, mais ils permettent également de réellement mieux se cerner. Les voici dans le désordre. À piocher selon ce qui vous inspire le plus. Imaginez vos 5 vies alternatives.
5 vies alternatives.
Ouais. Si vous aviez pu être un astronaute, un président, une sorcière, un grand sportif, etc., écrivez ce qui vous arrive, comment sont vos vies alternatives. Alors on dit de les écrire, pas de les noter sur Facebook.
Oui, c'est pas pareil.
Non, parce que ça fera pas pareil. Au pire, vous serez pris pour un petit peu dégénéré. Ensuite, deuxième exemple, faites un collage de ce qui vous inspire. Cherchez dans les journaux, etc., des images, des mots de ce qui vous inspire et réalisez un collage.
Oui.
Inspiration. C'est ce qu'on fait généralement quand on crée quelque chose. Faites une liste des 10 plaisirs et essayez d'en réaliser un chaque semaine. Ça, c'est mieux, je trouve. Ou plus souvent, puisque votre temps est limité. Voilà, on fait une liste de 10 choses qui nous font plaisir et à les réaliser dans la semaine.
D'accord, pas mal ça.
Ça, c'est pas mal. Faites un cercle. Au centre, incluez toutes les personnes qui vous aident et qui sont une force pour vous. À l'extérieur, écrivez les noms de ceux et celles qui vous font sentir moindres, qui vous font peur. Cela vous permet de mieux appréhender votre entourage et de ne pas tomber dans les pièges des manipulateurs ou de ceux qui vous rabaissent. Si vous en sentez la force, identifiez les personnes que vous ne voulez plus dans votre vie et coupez le cordon.
Voilà.
De toute façon, les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, vous les sentez directement, vous ne vous sentez pas bien en leur présence. Pour Marianne, ces exercices d'écriture étaient très importants et à relire ces pages, elle s'est rendue compte de ne
de pas mal de choses qui la tracassaient et qu'elle devait travailler. C'est un excellent outil. Petite info, relisez vos pages après une semaine d'écriture, pas avant. Cela vous évitera de vous juger trop prématurément.
Oui.
Dressez une liste de vos envies et de vos attentes. Rien de tel pour savoir où on en est. Qu'est-ce que vous voulez là, maintenant, tout de suite ? Coco, qu'est-ce que tu veux là, maintenant, tout de suite ?
Je sais pas.
Tu sais pas.
Non.
Bah, de toute façon, on a plus, long, plus beaucoup.
Je
il nous
pas.
Reste
c'est
avant
trop
tout.
Long à raconter. C'est... Je peux pas tout raconter à la radio.
Eh ben, du coup, okay. Ton travail c'est pour la possible. Semaine prochaine, ça sera ça. Dresser une liste de vos envies et de vos attentes.
Ah là là, elle va
du
bon,
coup,
je...
hein ?
Elle, je crois qu'elle va être très très longue.
Ouais. Eh ben, moi, la première envie, c'est d'aller boire une bière. Voilà. Alors, du coup, j'ai encore plein de choses à dire, mais on n'a pas le temps parce qu'on a trop parlé, justement, de nos histoires de contes et tout ça.
C'est très belle.
Donc, je reprendrai la confiance en soi sur ça, au départ. Pour une fois, on changera. On parlera de ça d'abord au lieu de parler d'actualité féminine.
Ouais.
On parle, voilà. Et du coup, la semaine prochaine, on parlera de la chose qui fait beaucoup parler d'encre aujourd'hui, les tenues républicaines.
Ah, tiens donc.
J'aimerais bien savoir ce que c'est.
Oui, moi aussi.
Qu'est-ce qu'on appelle une tenue républicaine ? Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
À quoi cela correspond ?
Quand tu notes ça sur Internet, tu as les tenues républicaines des soldats, de la cavalerie, tout ça. Alors, moi, je veux bien. Mais bon, et si tu tapes Marianne, elle est à moitié seins nus.
Oui, quand même.
Bon, moi, je veux bien. On va aller en cocarde.
Ouais.
Hein ?
On sort comme ça après.
Bah, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va aller défiler en tenue Marianne.
Oui.
Donc on parlera justement de qu'est-ce que la tenue, mais parce qu'on se pose des questions quand même. C'est trouve pas.
Si vous avez des idées.
C'est on voudrait bien qu'il nous fasse des images notre ministre pour comprendre ce que c'est qu'une tenue républicaine.
Voilà, à quoi ça correspond exactement.
Bah oui, parce que du coup les jeunes, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent rien.
Non.
Enfin nous non plus, tu me diras.
Ça les aide pas beaucoup.
Non plus. Donc on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et à bientôt, quoi, du coup. Passez une bonne fin de semaine.
Ouais. Bon, fin de mercredi.
Sous la pluie ?
Non, pas encore.
On n'est plus en été, c'est fini. Donc, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien.
Bye bye.